VOA Afrique.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Washington Forum. Le sport est à l'honneur ce soir dans notre émission, malheureusement pas pour les bonnes raisons. Les affaires de corruption et de dopage se multiplient et font la une des journaux depuis plusieurs mois. Le football, l'athlétisme et bien d'autres sont empêtrés dans une série de scandales. Corruption à la FIFA, soupçons de dopage organisé, des athlètes en Russie ou au Kenya. Les grandes compétitions comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de football sont ternies par ces affaires. L'éthique sportive est-elle mise à mal par l'argent et la triche? Élément de réponse dans ce Washington Forum.
Washington Forum.
Et merci de votre fidélité à VOA Afrique. Je salue tous nos téléspectateurs en Afrique et dans le monde, mais aussi sur Internet, sur voaafrique.com. Coup de projecteur ce soir donc sur la corruption et le dopage. On commence par le sport roi dans le monde. Je veux bien sûr parler du football. Un chiffre pour bien comprendre les enjeux financiers autour de la FIFA. L'instance dirigeante du football mondial a généré entre 2011 et 2014 5,7 milliards de dollars de revenus. C'est l'équivalent du PIB annuel du Libéria et du Burundi réunis. Face à ces sommes colossales, on comprend mieux pourquoi certains responsables mal intentionnés veulent avoir leur part du gâteau. Tout a commencé le 27 mai dernier à Zurich, lorsque 7 responsables de la FIFA sont arrêtés pour corruption et sur demande de la justice américaine. Parmi eux figurait Jeffrey Webb, ancien vice-président de la FIFA, et Eugenio Figueiredo, membre du comité exécutif. On avait également les arrestations de Jack Warner, ancien membre du comité. Tous étaient accusés de multiples violations à l'éthique. Et la semaine dernière, nouveau rebondissement, 6 mois après ce premier coup de filet, 2 cadres de la FIFA sont interpellés en Suisse, toujours à la demande des autorités américaines. Il s'agit de Juan Angel Naput, président de la CONMEBOL et vice-président de la FIFA, et d'Alfredo Awit, président intérimaire de la CONCACAF. Vous le voyez derrière moi, Sepp Blatter, lui, n'a pas été officiellement accusé par les Américains. Mais le président démissionnaire de la FIFA sait que les soupçons les plus graves pèsent sur lui. Retour sur le scandale FIFA, comme il est désormais convenu de l'appeler, avec sa loi Jaafari.
Est-ce vrai que vous avez volé plusieurs millions de dollars, monsieur Warner? Avez-vous peur d'aller en prison?
Jack Warner est le premier à être pointé du doigt. Il ne sera pas le dernier. Tout a commencé avec cet article du Daily Telegraph datant d'octobre 2013, l'accusant d'avoir reçu 1 million d'euros de la part d'une entreprise basée au Qatar. Le FBI lance aussitôt une investigation. Mai 2015, Sepp Blatter est réélu à la tête de l'organisation pour un 5e mandat. Vivement critiqué, il démissionne 1 mois plus tard. Le New York Times publie alors un article sur l'attribution de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Le numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valque, est accusé d'avoir versé 10 millions d'euros provenant d'Afrique du Sud sur un compte appartenant, encore une fois, à Jack Warner. Dans la foulée, Michel Platini se présente comme candidat à l'élection du nouveau président, avant d'être accusé à son tour en septembre d'avoir perçu plus d'1 million d'euros de la part de Blatter pour des dépenses des plus ambiguës. En octobre, Platini, Valque et Blatter sont suspendus. Entre-temps, aux États-Unis, l'affaire suit son cours. La semaine dernière, le couperet tombe.
Aujourd'hui, un jury fédéral de Brooklyn a rendu son verdict portant sur 92 chefs d'accusation qui concernent 16 accusés. Ils sont tous d'actuels ou d'anciens officiels du football.
Près de 200 millions de dollars, c'est le montant de pots de vin qui ont circulé à travers portefeuilles et comptes bancaires depuis les années 90. 16 nouvelles têtes tombent, dont 5 actuels ou anciens hauts responsables de l'organisation. 2 confédérations américaines décapitées 3 heures à peine avant le début de la seconde réunion du comité exécutif de la FIFA. L'heure est à la réforme, une réforme qui, en vue des événements, pourrait être plus radicale que prévu.
Merci Salwa pour ces précisions. Voilà, le décor est planté pour parler du scandale de la FIFA dans ce Washington Forum. J'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Galluzzo en direct depuis notre studio à New York. Bonsoir.
Bonsoir, merci.
Je rappelle que vous êtes avocat pénaliste et ancien procureur de l'État de New York. Autre invité ce soir, depuis Bujumbura, la capitale burundaise, Tarsis Harerimana. Vous êtes membre du comité exécutif de l'Association des journalistes olympiques, également membre du comité national olympique burundais. Bonsoir. Voilà, Tarsis qui sera certainement en ligne avec nous dans quelques secondes. Messieurs, on rappelle que ce scandale FIFA a pour toile de fond l'attribution des Coupes du Monde 2018 en Russie et 2022 au Qatar. Alors, Mathieu Galouzeau, vous avez lu l'acte d'accusation. On parle de crime fédéral. Que reproche exactement la justice américaine à ses dirigeants de la FIFA ?
Bon, oui, les accusations contre les officiels de FIFA... La raison que les procureurs américains ont poursuivi ces accusations, c'est que les officiels ont utilisé le système bancaire américain pour faire des virements et pour recevoir des paiements illégaux. Et donc, pour cette raison, les procureurs américains ont le pouvoir de poursuivre ces accusations contre les officiels. Et vraiment, le document des accusations, c'est très choquant. Il explique que ces officiels, vraiment, ils ont reçu des sommes énormes pour acheter leur vote, pour décider des choses comme le contrat de marketing, et pour, aussi pour choisir les endroits pour les Coupes du Monde.
Alors, Mathieu, beaucoup se demandent finalement pourquoi les États-Unis se déclarent compétents dans cette affaire. S'agit-il d'entreprises américaines ou tout simplement parce que le dollar a été utilisé pour ces transactions?
Oui, en général, et aussi parce que le blanchiment de l'argent et les paiements aux officiels sont passés par les comptes américains, le système bancaire américain à New York. Et aussi, l'accusation explique que des conspirateurs du complot, ils ont discuté le complot à New York, à la territoire de New York. Et donc, ce sont ces deux choses. Ils sont compétents pour poursuivre cette affaire parce que le système bancaire américain a été utilisé pour payer cet argent et aussi parce qu'ils ont discuté le complot à New York.
Alors, Tarsis Harerimana, vous êtes à Bujumbura. Est-ce que finalement, ça vous surprend que ce scandale FIFA éclate maintenant? On connaît évidemment les sommes astronomiques qui sont en jeu dans le football mondial depuis plus de 20 ans maintenant. Tarsis, est-ce que ça vous surprend que ce scandale n'éclate que maintenant finalement?
Oui, les sommes sont énormes. Et donc, les accusés, c'est très possible qu'ils vont recevoir des peines en prison très longues, comme 10 ans ou plus pour chacun. Mais maintenant, probablement, on va... Le procureur a déjà dit qu'elle va accuser les autres. Et donc, on pense beaucoup que M. Blatter va être accusé bientôt.
Merci beaucoup, Mathieu. Alors, je rappelle, Kissa Hayatou, le président de la Confédération africaine de football, préside actuellement la FIFA par intérim. Le Camerounais est depuis presque 30 ans à la tête de la CAF. Beaucoup estiment qu'il n'est pas l'homme de la situation pour faire le ménage au sein de la FIFA. Écoutez sa réponse lors d'une conférence de presse la semaine dernière à Zurich.
Je n'aurais pas été ici si j'étais corrompu, mon cher ami. Que ce Parlement-là prouve que j'ai eu 1,5 million. Je n'ai jamais reçu un franc, un dollar, un euro de qui que ce soit pour pouvoir voter un pays pour l'organisation de la Coupe du Monde. Je n'ai pas été impliqué dans aucun scandale, à ce que je sache. Et si vous avez des preuves que j'ai été impliqué quelque part, dites-le moi, je suis prêt à recevoir et éventuellement même à corriger mon comportement. Mais à l'heure actuelle, pour moi, la FIFA n'est pas corrompue. Il y a eu des individus au sein de la FIFA qui ont eu un comportement négatif. Donc, il ne faut pas généraliser la situation. Il y a bien des gens qui sont restés plus de 30 ans, 20 ans, 25 ans, 10 ans, mais qui n'ont pas été du tout touchés par les scandales que nous sommes en train de traverser en ce moment. C'est tout ce que je peux vous dire.
Voilà pour les propos d'Issa Hayatou. Retrouve Tarsis Harerimana depuis Bujumbura. Tarsis, finalement, est-ce que ça vous surprend, ce scandale? C'était ma première question. Et surtout, est-ce que, selon vous, Issa Hayatou est l'homme de la situation actuellement à la tête de la FIFA?
Bien sûr, ça ne me surprend pas parce que ça a trop duré d'abord. La succession d'abord de Joao Blanche, c'est Blatter est venu comme sauver une institution. Vous savez qu'il est venu, d'ailleurs, quand il est venu, ce n'était pas un élu, hein, il était le secrétaire général, il connaissait donc la Rwanda. Mais quand il est venu pour l'Afrique, c'est une bonne chose parce que cet argent qui est arrivé via la télévision et les sponsors. Ce qu'on n'a pas oublié, c'est que quand même, il y a des sponsors américains aussi qui financent la FIFA. Et donc, le gouvernement américain a un droit de regard, d'une certaine manière. Donc, en fait, lorsqu'il est venu, je pense que l'argent était en masse. Et nous, au niveau Afrique, nous n'avions pas des structures d'accueil et de gestion de cet argent. C'est un peu partout dans le monde. Donc, et ça, ça devait arriver quelque part. En plus, effectivement, le droit de retransmission et l'attribution au pays pour l'organisation de la Coupe du Monde. Quant au dirigeant Issa Hayatou, je pense que la sagesse africaine peut prévaloir en situation comme que nous vivons au sein de la FIFA. Ce qui est intéressant, à mon avis, en tant que journaliste, c'est que quand même le football continue à marcher. Si c'était une structure un peu fragile, ça aurait paralysé tout. Donc il y a des hommes de bonne volonté, et si Hayatou a été choisi, c'est que quelque part, il a les qualités et que la sagesse est dans. Et ça peut être un homme de la situation qui peut nous conduire à une bonne voie et qui pourrait sortir la FIFA de cette situation.
Merci Tarsis. Tout de suite, deux commentaires Facebook laissés sur notre page. Le premier nous vient de Bamako. Il s'agit de Mamadou Sogonda du Mali. Il nous explique qu'Issa Hayatou n'a pas la compétence pour la FIFA car il n'a pas réussi à bien diriger la CAF pendant des années. Un deuxième commentaire Facebook d'Alphonse Mbouaki à Kinshasa en RDC. La FIFA est très pourrie selon lui parce que son président s'est constitué un club d'amis souillés moralement. Le comité d'éthique de la FIFA ne menait aucun audit. On retourne à New York avec Mathieu Galluzzo. Mathieu, est-ce que Sepp Blatter finalement peut échapper longtemps à la justice américaine? Est-ce que les procureurs ne vont pas essayer de retourner les accusés contre lui pour essayer d'avoir son inculpation?
Oui, absolument. Probablement, le procureur a déjà dit que son bureau va accuser les autres. Et tout le monde attend pour l'accusation contre M. Blatter. Et maintenant, ce que je... Bien sûr, il est le président de FIFA. On pense qu'il va être accusé aussi. Et ce qui va passer probablement, des accusés qui ont été accusés déjà, comme M. Jack Warner et les autres, probablement, ils vont parler avec le gouvernement pour faire un accord ou faire des accords pour témoigner contre M. Blatter. En échange, ils vont essayer de réduire leur peine en prison. Et donc, presque certainement, quelque chose comme ça va arriver, je crois. Et donc, M. Blatter doit rester en Suisse, parce que sinon, il peut être extradité aux États-Unis, peut-être. Et, il peut être arrêté dehors de la Suisse.
Merci beaucoup, Mathieu Galluzzo, pour ces précisions en direct de notre studio à New York. Ainsi s'achève cette première partie de Washington Forum. Remercions évidemment notre invité, Mathieu Galluzzo, pour ses explications depuis notre studio à New York. On se retrouve tout de suite. Retour dans ce Washington Forum du 10 décembre 2015. Gros plan cette semaine sur le sport en danger à cause de la corruption, mais aussi dernièrement le fléau du dopage. L'athlétisme a subi un choc retentissant avec la parution le mois dernier d'un rapport de l'Agence mondiale antidopage. Selon ce document explosif de 300 pages, un haut niveau de collusion existe entre les athlètes, les entraîneurs, les médecins et les officiels et les agences sportives en Russie pour fournir de façon systématique aux athlètes russes des produits dopants et atteindre le principal objectif de l'État, produit de vainqueur. Fin de citation. Alors je vais vous citer l'une des phrases du rapport à propos de la Russie, qui risque, je vous le rappelle, une suspension pour les prochains Jeux Olympiques de Rio, ce sera l'année prochaine. L'enquête montre que l'acceptation de la triche à tous les niveaux était étendue et de longue date. Voilà, c'est ce que dit le rapport. Retour sur ce scandale de la triche au plus haut niveau, qui gagne aujourd'hui tous les pays, comme le Kenya Les explications de Salwa Jaafari et Chérubin Dorsil.
Tout a commencé avec ce documentaire inédit de la télévision allemande ARD, diffusé en décembre 2014, « Dossier secret sur le dopage, comment la Russie produit ses vainqueurs ». Un document choc dans lequel le journaliste révèle un dopage systématique couvert par les autorités russes. L'enquête dure un an avant d'aboutir. Novembre 2015, l'Agence mondiale antidopage rend public ses conclusions. Elles sont accablantes.
Nous avons trouvé les cas de dissimulation de preuves, de destruction d'échantillons dans des laboratoires. Nous avons aussi des paiements en espèces pour dissimuler les résultats des tests de dopage.
Le Conseil de la Fédération internationale d'athlétisme n'a eu d'autre choix que de suspendre provisoirement la Fédération russe de toute compétition sans durée déterminée. Le sort de milliers d'athlètes ne tient qu'à un fil à moins de 9 mois des prochains Jeux de Rio. Changement de décor. Au Kenya, l'affaire du dopage en Russie fait trembler les piliers de l'athlétisme du pays. Les soupçons de dopage et de corruption ne sont pas encore confirmés, comme ça a été le cas pour la Russie. Mais un rapport devrait être rendu public l'année prochaine. Ces accusations ont provoqué un tollé au Kenya. Un groupe de 50 athlètes ont protesté devant l'association d'athlétisme. Ils demandent le départ du président. La fédération est aussitôt décapitée par la Fédération internationale d'athlétisme. Sharad Rao vient d'être nommé par l'Association internationale de la Fédération d'athlétisme. Il est désormais chargé d'y voir plus clair.
La coopération est vraiment nécessaire dans ce contexte particulier. La coopération et la volonté des athlètes eux-mêmes de manifester pour nous dire et nous dire honnêtement ce qu'ils savent.
Depuis janvier 2012, 17 athlètes kényans ont été contrôlés positifs par l'AMA. Parmi eux, aucun grand nom de l'athlétisme kényan, certes, mais une réputation entachée. Le Kenya excelle en athlétisme avec des détenteurs de records mondiaux dans des disciplines comme le 800 mètres ou le marathon.
De retour en plateau dans ce Washington Forum pour parler du dopage. Nous sommes en liaison Skype depuis Rabat avec le docteur Larsen Jejli, ancien médecin des équipes marocaines d'athlétisme. Bonsoir.
Bonsoir.
Et depuis Bujumbura, toujours avec nous, Tarsis Alerimana. Vous êtes membre du comité exécutif de l'Association des journalistes olympiques et membre du comité olympique burundais. Merci de rester avec nous pour cette deuxième partie. Messieurs, ce scandale du dopage en Russie a fait l'effet d'une bombe. Pourtant, régulièrement, des sportifs tombent pour dopage dans le monde. Docteur Larsen Jejli, avez-vous été surpris par ces accusations et ces révélations ?
Pas tout à fait. Parce que c'est avec le temps, on sentait venir la vague là, le tsunami là de ces accusations, fondées ou pas, c'est peut-être les conclusions qui vont le dire après. Mais l'histoire nous a appris que déjà le bloc soviétique à l'époque, la DDR et les pays alentours faisaient doper leurs athlètes pour gagner et on nous a toujours se souvenait que ces jeunes athlètes se dopaient parce que c'était la seule voie pour voyager hors de leur pays. Donc, pour les athlètes, c'était justifié, entre guillemets, mais c'était politiquement justifié pour les instigateurs de ce problème-là.
Alors, docteur, le rapport dit notamment, et je cite ce rapport de l'Agence mondiale antidopage, le rapport qui dit « L'impartialité et le jugement de l'intégrité de ce laboratoire, on parle du laboratoire Moscovite, ont été mis en péril par la surveillance du FSB, les services secrets russes. Pendant les Jeux, il y a eu des intimidations et des ingérences directes de l'État russe dans le fonctionnement du laboratoire. » Fin de citation. Tarsis, est-ce que la lutte antidopage peut être efficace si elle est confiée aux États finalement et à des entités étatiques?
C'est difficile et on l'a vu, excusez-moi, c'est tellement difficile. Mais ce qu'il faut savoir quand on parle, ce qui m'a surpris moi, c'est le système Russie qui me rappelle d'autres affaires, dopage de l'État, ce qu'on appelle pas de l'État, de l'ex-RDA. Mais aussi, quand on parle de ce laboratoire en Russie, on pense aussi à l'affaire Balkan qui a amené à Marion John de perdre toutes ses médailles. Et également, même Tim Montgomery qui a été sanctionné. Alors, tout cela, ça dit que et le Comité international olympique et les États n'arrivent pas à avoir un contrôle efficace par rapport au progrès pharmaceutique. Je m'excuse, je ne suis pas médecin. mais également nous avons peur au niveau de l'Afrique puisqu'on n'avons pas des moyens. Et la MINDIAC l'avait dit récemment à Beijing lors de ces championnats quand il était plus ou moins accusé par les journalistes en disant, écoute, moi en tant que président de la Fédération internationale, j'avais plusieurs fois proposé qu'il y ait des centres antidopage en Nairobi ou en Éthiopie, mais rien n'a bougé. On a
Alors on va y revenir après, Tarsis, on va revenir sur le cas kényan juste après. Tout d'abord, deux autres commentaires hein, Facebook laissés sur la page de VOA Afrique. On écoute tout d'abord Youssouf Ouedraogo de la Côte d'Ivoire qui nous écrit « Le dopage se nourrit de la corruption qui est devenue un mal presque incontournable dans le monde sportif aussi longtemps que le business prendra le dessus. L'enjeu tuera le jeu. » Naouka Balga, Blaise Guissou du Burkina Faso, « Le fait de vouloir un super sportif pousse au dopage. Les sponsors des athlètes misent des sommes importantes, donc cela pousse au dopage. Il faut humaniser le sport. » Voilà ce que nous dit notre internaute. Voilà pour ces commentaires Facebook et merci de votre fidélité en ligne pour poursuivre notre conversation. Cette tricherie remet donc en cause la crédibilité des performances et fausse complètement les résultats des grandes compétitions. Toujours ce rapport accusateur de Lama, il dit dans une autre citation « Les Jeux Olympiques de Londres ont été dans un sens sabotés par la participation d'athlètes qui n'auraient pas dû concourir. » On rappelle que nous parlons des Jeux Olympiques d'été 2012 qui se sont déroulés dans la capitale britannique. Docteur Larsen Zejli, vous m'avez dit finalement en préparant cette émission qu'il y a des pays qui étaient plus contrôlés que d'autres à votre époque, notamment le Maroc par rapport à ses adversaires continentaux comme le Kenya. D'ailleurs, les trois plus hauts responsables de la Fédération kényane d'athlétisme ont depuis été suspendus. Docteur, est-ce que finalement, vous pensez qu'il y a toujours du deux poids, deux mesures concernant les nations de l'athlétisme mondial ?
On risque de vous dire la vérité, et ça va continuer certainement, malgré tout. Moi, j'ai fait l'athlétisme et l'encadrement médical des équipes nationales pendant 17 ans en athlétisme. On a été contrôlé pratiquement chaque mois et des fois chaque semaine même. Et des fois même, le même athlète est contrôlé aujourd'hui et dans 3-4 jours, il y a aussi une descente. Et de ce côté-là, moi j'ai vécu, parce que c'était hors la logique, parce que où est-ce qu'il est la liberté des gens? Et c'est là où on a compris que finalement, au niveau des Kenyans et d'autres pays subsahariens, les mêmes agents qui venaient nous contrôler à Rabat et à Ifrane en altitude ne trouvent même pas d'adresse pour trouver ces athlètes pour le fameux le programme Adams.
Alors justement, vous parlez de l'exemple kényan. Tarsis Arerimana, vous vous êtes rendu plusieurs fois au Kenya dans les centres d'entraînement des athlètes kényans. Comment expliquez-vous ce problème justement ?
Moi, je l'explique d'abord qu'il y a eu, à mon avis, plusieurs phases. Il y a la phase où on voit les athlètes kényans émergeaient et avec une certaine éthique, mais vers la fin, effectivement, les athlètes sont devenus nombreux sur le circuit, que ce soit au niveau de la piste, qu'au niveau du marathon, et des managers qui sont venus, on les voit même, deux grands managers, dont je ne cite pas le nom, qui amènent ces athlètes sur le circuit au niveau international. Et ainsi, du côté de Eldered, on ne contrôle plus ce mouvement-là qui, finalement, ta mouvance est un réseau très important et la Fédération kényane est aussi incapable de contrôler chaque athlète qui coule des marathons de New York, de Boston, de Chicago, même de Londres. Ils sont nombreux, et même ceux qui font aussi la piste. Donc, en fait, on est dans un système, d'un côté qui est un système africain avec des structures faibles, avec une administration très, très, très fragile et aussi un professionnalisme excellent au niveau de la performance et dont on peut se douter.
Et d'ailleurs, Tarsis, pardon de vous interrompre, mais on l'a appris ce jeudi, une équipe de l'Agence mondiale antidopage, dirigée par son directeur général, David Oman, va se rendre au Kenya la semaine prochaine pour vérifier la mise en œuvre des réformes antidopage. Lama craint que le Kenya n'en ait pas fait assez. Et pourtant, nous avons 43 athlètes qui ont été suspendus pour dopage depuis 2012, a défendu Kipchoge Kenyo, le président du comité national olympique kényan. On précise aussi que ce scandale du dopage dans l'athlétisme a éclaboussé Lamine Diack, le Sénégalais, ancien patron de la Fédération internationale d'athlétisme. Il a été mis en examen pour corruption passive et blanchiment aggravé. Il est soupçonné d'avoir reçu en 2011 un peu plus d'1 million d'euros de pots de vin pour faire taire les résultats positifs d'athlètes russes. Alors Tarsis, est-ce que finalement la corruption et le dopage, ce ne sont pas les deux plaies du sport moderne selon vous ?
Oui, en fait, je pense que le sport moderne a survécu. Il a vécu les deux grandes guerres. Il a survécu. Il y a eu le problème d'amateurisme. Il y a maintenant le problème aussi de la ségrégation raciale, que ce soit aux États-Unis, que ce soit également l'Afrique du Sud qui est exclue, même la Rhodésie. On sait ce qui s'est passé à Montréal. Mais avec l'argent qui est venu depuis les Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles, on sent que les télévisions sont derrière. On sent que également les structures sont devenues des structures, c'est vrai, fragile, qui s'ouvre au niveau de l'argent, et l'Afrique qui émerge par le Kenya, par l'Éthiopie, ne pouvait pas être épargnée par ce système d'argent. Je pense que là, il faut sauvegarder l'éthique. Il faut accepter. Quand on parle de la commission d'éthique, de la FIFA et tout ça, le génie quand même de ces structures que j'aime beaucoup, c'est qu'on, par exemple, au niveau de la FIFA, on voit que c'est cette commission d'éthique avec, qui prend les sanctions pour sanctionner les gens, et on voit aussi également du côté de l'IAF un effort qui a été fait. Le Kenya, eh ben, la fédération a été surprise. Eh ben, cette fédération qui est surprise, bien sûr, a initié certains avancements en sanctionnant les athlètes, même en sanctionnant certains managers. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Et ouais. Donc, il faut comprendre Tarsis, que le système kenyan est très difficile.
Tarsis, si vous me permettez, on va poser la question au docteur. Finalement, Zejli, docteur, est-ce que vous pensez qu'il est toujours plus facile de se doper par rapport au contrôle? Est-ce que vous pensez que ceux qui se dopent ont toujours un temps d'avance sur, finalement, les laboratoires de recherche?
Dans les pays occidentaux, c'est vrai. Mais en ce qui concerne les pays du tiers-monde, et en Afrique en particulier, les athlètes ne sont pas en avance sur les contrôleurs, c'est sûr. La preuve, c'est qu'ils débarquent tout le temps et même au niveau des compétitions, des fois, ils sont contrôlés au niveau de l'aéroport et à la descente d'avion, des fois, à des heures impossibles. Et dans des hôtels, à des heures impossibles. Donc, et vu les moyens que ces athlètes ont localement, je parle que des athlètes qui sont chez eux. Et maintenant, ceux qui voyagent, ils voyagent énormément. Maintenant, il y a certainement des contacts entre des athlètes, des managers. Et il ne faut pas oublier que le managériat y est pour beaucoup de choses.
Alors, le rapport de l'Agence mondiale antidopage mentionne aussi d'autres sports, hein, que l'athlétisme, la natation, le ski de fond et l'aviron sont aussi évoqués. Autant de disciplines, hein, finalement, où l'endurance est primordiale. En tout cas, le public se pose des questions pour les prochains Jeux olympiques d'été 2016 à Rio. Très rapidement, Tarsis, finalement, des Jeux olympiques sans les Russes, est-ce que vous y croyez?
Faisons confiance quand même à la justice et à la commission d'éthique de l'IAF et également à l'AMA. Mais bon, disons, c'est pas encore fini aussi pour le Kenya, parce que si on arrivait... Moi, j'ai peur que si on pousse le ballon très, 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 très loin, on arrivera peut-être à avoir des scandales comme... ces scandales au sein de la FIFA, parce que c'est un phénomène assez compliqué. Quand on parle des Kenyans, quand on parle des Éthiopiens, moi je vois toute une chaîne, le docteur l'a dit, toute une chaîne derrière, des managers, des pharmacies et tout. La science évolue sans nous. Et imaginons, nous vivons ici au Burundi ou un peu partout. Le danger de l'Afrique, je l'ai dit, c'est ces médicaments périmés qui sont en train de voyager un peu partout en Afrique. Est-ce que si un produit, qui est même un produit interdit, fabriqué à l'africaine, fait ce qu'il est, est-ce que nous sommes capables vraiment de détecter ce produit? Même si au niveau des Jeux Olympiques, on nous dit, ben écoute, il faut inscrire sur la liste les médicaments qu'il faut emporter à Rio. Donc je pense qu'il faut être d'abord sage et il faut être efficace aussi. Et il faut sauver le sport, car le sport c'est très important. Il faut aller vers l'éthique, vers la sauvegarde d'un sport sain. Évidemment, c'est très compliqué, même si le président du CIO est clair en disant bien, tout simplement qu'il faut lutter contre le dopage jusqu'au bout.
Merci beaucoup, hein, Tarsis Arerimana. Ainsi s'achève ce Washington Forum. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. On va remercier Salwa Jaafari, Michel Joseph, Isha Grover et Jean-Michel Mathurin pour la préparation et la réalisation de cette émission. On salue nos télévisions partenaires, Commonwealth TV au Sénégal, la RTI en Côte d'Ivoire ou encore B1 à Kinshasa. Retrouvez Washington Forum sur notre site internet voafrique.com et nous continuons la discussion sur notre page Facebook. Je vous dis à très vite sur VOA Afrique.
Mais...